Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, rendez-vous mensuel. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec
nous. Je ne sais pas,
nous...
mais je suis là.
Bon, Hervé qui est avec nous au téléphone. Bonjour Hervé, depuis, au téléphone depuis la capitale. Actualité au pluriel, avec un S, donc 813 dans Variation en noir aujourd'hui, des trophées, une revue, l'association des amis des littératures policières en pleine effervescence. Et puis nous évoquerons le 120e anniversaire de la naissance de Simenon, ainsi que le GPLP, Grand Prix de littérature policière 2023, avec notamment le retour au premier plan d'un certain Denis Lehan. Hervé, riche actualité pour l'association 813, avec début septembre la remise des trophées, les 5 trophées que l'association remet depuis sa création, hein, depuis plus de 40 ans, 5 trophées. Et alors peut-être avant d'évoquer ces trophées, rapidement Hervé, rappel du principe, hein, puisque il s'agit bien d'un vote par les adhérents de l'association.
Oui, c'est ça qui en fait la richesse et l'originalité, c'est que, à la différence de prix, par exemple, très connu et de grande qualité, mais comme le prix Mystère de la Critique ou le Grand Prix de littérature policière, les trophées 813, ils sont décernés par les adhérents. Premier tour, chacun vote pour ce qu'il veut dans chacune des catégories, et deuxième tour, et ben il y a 5 sélectionnés par catégorie, et puis et ben il y a un gagnant ou une gagnante dans chaque voilà. Et ce qui était un très grand plaisir cette année, c'est que il y a eu plus de 150 votants, 152 je crois exactement, c'est-à-dire que ça en fait un jury de connaisseurs et populaire à la fois.
Alors on va passer en revue, hein, les trophées rapidement. Je vous rappelle qu'il y a un blog 813, vous pourrez trouver sur ce blog toutes les informations, hein, concernant ces trophées, peut-être même des prises de vue de la remise, hein, des trophées qui a eu lieu à la Bilipo, Bibliothèque des littératures policières à Paris, début septembre. Alors tout d'abord, il y a le prix du roman français, francophone, Hervé.
Alors le prix du roman francophone, oui, il a été décerné au troisième roman, je crois, de Valentine Imhoff, Le Blues des Phalènes, aux éditions du Rouergue. C'est une autrice qu'on avait remarquée par les Rafales et Nippo notamment, mais ça a été un grand plaisir parce que ça n'était pas forcément le roman de la parmi les 5 finalistes. Ce n'était pas Valentine Imhoff, ce n'était pas la plus connue, et c'est un roman de très grande qualité, de grande envergure, qui se passe dans l'Amérique des années 30, que Valentine Imhoff a beaucoup visité, disons, littérairement, historiquement et tout, Et bon, elle-même, elle enseigne, ça se passe au moment de la Grande Dépression. Ça met en scène des personnages qui sont à la fois très incarnés et en même temps des gens de peu, enfin qui ne sont pas voilà, c'est des personnes comme cela nous importe en général en littérature. Et ces quatre destins, ils arrivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, tout près d'où enseigne Valentine Imhoff, puisqu'elle ne pouvait pas être alarmiste du
Oui,
prix. Elle
c'est
enseigne
ça.
le français à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui est assez éloigné tout
Un
de même.
peu, un peu loin. Oui, il y
Voilà.
avait du lourd hein, dans la sélection. Il y
Ah
avait
ben
Pagan,
complètement, il y
Norek, qui est
avait
donc.
Jérôme Leroy,
Ouais.
Patrick Pêchereau,
Voilà.
Olivier Norek et
Et
puis
puis Pagan, je pense.
Hugues Pagan. Oui,
Donc,
ben,
c'est
on peut dire que
que.
Valentine Imhoff était la moins connue,
Voilà.
en tout cas, et c'est elle qui a eu le prix, et c'est un qu'il a eu assez largement, et c'est un très grand plaisir. Voilà, on verra. Il va y avoir aussi dans ce livre aussi, joue un très grand rôle au moment où les personnages y arrivent, c'est l'explosion de la ville d'Halifax, qui était un énorme cataclysme avant qu'on en arrive au cataclysme nucléaire, disons. Voilà.
Alors ensuite, il y a le trophée Michel Vita, trophée du roman étranger, édition
Oui.
Gallmeister, qui sont récompensés cette année.
Bah, c'est les éditions Gallmeister avec un livre, avec le deuxième roman enfin traduit en français en tout cas, du sard Pier Giorgio Pulici, avec une très belle traduction d'Anatole Pons. C'est L'illusion du mal. Et bon, Pulici, on l'avait remarqué pour son précédent livre chez Gallmeister aussi, qui s'appelait L'île des âmes, je crois, et qui se passait dans la Sardaigne avec des meurtres rituels et une atmosphère absolument assez unique et très, très prenante, très poignante. Là, on a un roman avec un. Qui est en écho à toute une modernité, puisque les téléphones portables de toute l'Italie vont recevoir une vidéo avec un criminel qui est ligoté, un homme masqué qui le tient en joue, et les gens vont être amenés à voter. Enfin voilà, donc ça met en scène évidemment cette société du spectacle terrifiante qui est aussi la nôtre. Voilà, donc,
Pier
eh ben,
Giorgio, ouais,
Pier
Pulici.
Giorgio Pulici,
Pulici.
un auteur italien, sarde
Je pense
précisément,
que c'est avec.
qui monte et qui est à suivre,
Ouais,
oui.
je pense que c'est avec cet auteur que Gallmeister s'est ouvert aux autres littératures que les littératures américaines, hein, qui étaient
Bien sûr, bien
l'objet
sûr, avec
pour.
un grand succès dans le roman noir et le thriller avec Pulici, et puis des auteurs dans d'autres domaines que le roman noir ou que le polar, mais aussi dans cette veine-là, Gallmeister a commencé à retraduire et rééditer justement un auteur italien qui a été peut-être à l'origine d'un genre original en Italie, qui était Giorgio
Ouais.
Cervenenco.
Alors ensuite, il y a le trophée de la nouvelle qui nous emmène dans le nord de la France, Hervé.
Oui.
Hein? Bon, avec un auteur primé donc qui porte un nom vraiment qui tombe bien, hein, Jérémy Bouquin, et pour une nouvelle publiée aux éditions Inuit. Je te laisse donner le titre, Hervé.
C'est Baraque à frites de Jérémy Bouquin. C'est dans la collection de novellas et de nouvelles que dirige l'excellent Marc Villard. Et c'est c'est une on a le petit le j'allais dire le petit Jules, enfin il a quand même 30 balais à peu près, il est autiste, et avec sa maman il tient une baraque à frites avec un soin extrêmement minutieux. Et puis il y a l'ami entre guillemets de la famille, Mike, qui suit ça de loin, qui surveille tout ça, et puis un jour tout ça va déraper. C'est très très réussi. Voilà.
Donc vraiment à recommander à
Oui,
nos
un grand
auditrices, nos
plaisir que ce
auditeurs,
soit là
c'est
aussi un, c'est par ailleurs là aussi un, C'est une catégorie, le trophée de la nouvelle et de la novella qu'on a rétabli il y a peu de temps. Et ce qui fait très plaisir, c'est que des gens se disaient « oui, mais on dit toujours, les gens lisent pas de nouvelles et tout ça ». C'est un trophée pour lequel on a énormément de votes, donc c'est très plaisant.
Alors ensuite, il y a le trophée Maurice Renaud. Donc c'est un trophée qui récompense un essai ou un travail autour des littératures policières. Et cette année, c'est...
cette année, c'est un grand plaisir parce que c'est un livre dont je crois nous avons longuement parlé ici. Une biographie de Ed Lacy par Roger Martin.
Voilà.
Ed Lacy, on en avait longuement parlé ici à l'occasion de la traduction et la sortie, la traduction par le même Roger Martin de cet auteur américain méconnu aujourd'hui pour un livre qui s'appelait Traque Noire.
Tout
je
à
crois.
Fait, ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà, et c'est Ed Lacy, c'est un grand auteur, qui a un temps a été beaucoup traduit à la série noire, puis qui a été assez oublié. Et il est quand même ce blanc très engagé, rouge. Il a quand même créé en 1957 le premier personnage de détective privé noir avant Chester Hines.
Ouais, tout à fait.
Personnage célèbre, Cercueil et Fossoyeur. Et puis il a une œuvre vraiment intéressante, et donc que ce soit le prix Maurice Renaud, le trophée Maurice Renaud était vraiment fidèle à ses origines de récompenser un essai pertinent sur quelqu'un qui soit important dans le genre, et ça fait plaisir aussi que ce soit les petites, ça n'est pas péjoratif, mais c'est simplement de petite taille, édition à plus d'un titre,
tout à fait.
Qui ait publié ce livre.
Voilà. Et puis enfin, le trophée BD, Nettoyage à sec.
Nettoyage à sec de...
Mertens.
Je n'ai pas le...
L'auteur, c'est Mertens.
C'est Mertens, voilà.
Ça dépend si on le prononce à la belge ou à la baraque à frites, oui.
C'est aussi très plaisant parce que dans la sélection, c'était également le candidat qui était à mon avis le moins évident, et c'est vraiment une belle cause. C'est aux éditions excellentes Rue de Sèvres. Mmh. C'est vraiment un beau dessin, une belle histoire, difficile à raconter parce que par définition une BD ça se regarde.
Tout à fait.
Et allez voir Nettoyage à sec de Joris Mertens.
Aux éditions rue de Sèvres. Voilà. Donc, alors je vous rappelle, tous ces trophées, vous les retrouvez bien entendu sur le blog de 813, en long et en large. Alors, l'autre temps important de l'actualité 813, c'est la sortie de la revue numéro 146, automne 2023, avec une couverture illustrée par Pierre Place, une couverture qui jette. Mais il fallait au moins ça, vu le dossier de ce numéro. Alors, il n'a pas encore obtenu le prix Nobel, en grande dame de Jérôme Leroy, auteur d'un des articles du dossier. Il n'en est pas moins présenté comme un maître du noir, Stephen King, donc au sommaire de ce numéro. Alors, Hervé, pourquoi un dossier Stephen King, un auteur plutôt connu de la planète entière pour ses romans de littérature fantastique, peut-être un peu moins pour ses romans noirs, un auteur aussi qu'il n'est peut-être pas facile d'afficher comme un de ceux que l'on préfère. Hervé.
Alors, moi, ça tombe bien parce que justement, c'est un de mes auteurs préférés depuis longtemps. Je l'ai découvert à la fin des années 70, au tout début, avec... je sais que le premier que j'ai lu, c'était Salem, et puis il y a eu Carrie, et puis il y a eu plein de gens, mais je suis loin d'avoir tout lu, mais c'est un auteur que j'estime beaucoup. Et justement, moi, je fais pas une différence entre... le côté, comme nous l'avons mis, Stephen King, maître du noir, et puis la terminologie qu'on lui accole souvent, qui est maître de l'horreur, parce que Stephen King, auteur extrêmement populaire, ce qui ne lui a pas, ce qui effectivement ne lui donne pas forcément les plus grands prix, mais lui donne un lectorat mondial énorme. Il met, évidemment qu'il a mis en scène, et on le sait bien, il est connu pour ça, des créatures maléfiques, qu'on pense aux clowns de ça, aux jumelles de Shining, etc., etc. Mais l'horreur, Shaking, d'abord, elle est souvent le nom de mots qui sont bien plus humains, et c'est ce que notre dossier s'est attaché à montrer, c'est-à-dire les fanatismes, qu'ils soient religieux ou politiques, la violence conjugale ou la violence faite aux enfants, l'oppression des minorités, l'alcoolisme et les ravages qu'il peut produire, le goût de la violence, le goût des armes. N'oublions pas, par exemple, que François Bunel, qui est un grand lecteur, un grand amateur de Stephen King également depuis très longtemps, dans le numéro d'America qu'il avait consacré à la violence en Amérique, a publié, par exemple, le texte que Stephen King a consacré aux armes, qui s'appelle Guns. Oui. Et par ailleurs, Bunel a eu cette formule excellente, à mon avis, concernant Stephen King, disant « C'est l'un des écrivains qui a planté un thermomètre dans le fondement de son pays et qui regarde monter la température. » Alors, oui, Stephen King... C'est un romancier du noir, parce que de toute façon, que ses livres ressortent de cette catégorie, or il y en a au moins une dizaine qui sont des romans noirs. Notre l'ami de 813, Laurent Grezard, a recensé les romans purement noirs, dont par exemple son avant-dernier, l'excellent Billy Summers.
Tout à fait.
Mais par ailleurs, de toute façon, les romans de Stephen King, même s'ils utilisent de la fantasy, ils utilisent des ingrédients du roman de terreur et tout, sont des romans de crise, sont des romans qui reflètent l'Amérique et les maux qui peuvent la dévorer et la société occidentale en général. Y a de toute façon, en cela, c'est un roman socialement qui est socialement très impliqué, qui est vraiment des gros romans révélateurs de la société. Gwenaëlle Bulto, par exemple, le montre aussi très bien. Justine Nogret,
qui est sa biographe.
C'est ça qu'on est content d'avoir réuni, justement, des auteurs comme Jérémy Fell, qui dit que sans des gens comme King, il n'aurait sans doute pas écrit, mais aussi Jérôme Leroy, Gwenaëlle Bulto, Justine Nogret, qui est une écrivaine de l'imaginaire, mais qui a consacré une bio à Stephen King il y a peu de temps, etc. C'est-à-dire que le traducteur depuis longtemps de Stephen King, Jean Hesch, qui dit des choses très intéressantes aussi. C'est-à-dire que vraiment, Stephen King, c'est Nogret qui doit dire ça. Elle dit « Le monde de King existe en miroir de la réalité américaine ». Et c'est en ça qu'on voulait absolument aller chercher ce qui faisait sa richesse. Stephen King, c'est pas un auteur de fantastique qui est juste là pour faire frissonner les gens. Il est là, il a cette espèce, et Jérôme Leroy, je crois, salue ça. Il sait donner du plaisir, c'est-à-dire que il écrit avec une certaine simplicité. Il est aussi d'un humanisme profond. Il a des personnages attachants. Nos différents contributeurs se sont attachés à le dire. Et en même temps, il va très loin. C'est un des auteurs aussi les plus féministes qui soient. Mmh. Il a des personnages de femmes absolument éblouissants et d'enfants. Mais ça n'est pas si fréquent que ça, et pas si fréquent dans la littérature extrêmement populaire. Et par ailleurs, il a toujours aussi, et ça, nos différents contributeurs le soulignent aussi, il a toujours une réflexion sur l'écriture, lui-même qui est quelqu'un, on ne le sait pas toujours, mais d'extrêmement cultivé, que ce soit dans
très
le domaine
lecteur,
du roman noir ou de la littérature, un grand, grand lecteur. Il avait fait, là je parle du roman du noir, mais pas uniquement, ça le dépassait, il avait fait, si on peut encore trouver cette édition, une préface à Ici et Maintenant, le premier roman de Jim Thompson, édité par Guérif chez Rivage Noir. Renard. Et il avait fait une préface absolument éblouissante. Si vous tombez dessus, il faut vous le procurer. Il parle évidemment de tous les grands maîtres du noir et aussi de gens plus récents qu'il connaît bien. Et en même temps, il connaît très bien toute la littérature américaine et il aime parler. Il a beaucoup de personnages d'écrivains, de personnages de professeurs et il aime parler du travail d'écrivain. Beaucoup ont vu le film et ou aussi ont lu le livre Misery, par exemple, où il met en scène un écrivain pris en otage par une de ses fans, un peu cinglé. Mais de toute façon, tous ses romans jusqu'au dernier parle beaucoup de la littérature et du travail de l'écriture auquel il a consacré un livre. Voilà. Je pourrais être intarissable sur
ces c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu es intarissable. On voit que voilà, c'est Stephen King pour toi.
Si vous avez un doute, lisez le livre qui d'ailleurs a fait qu'il a commencé à être reconnu un peu par une intelligentsia qui parfois l'ignorait. Lisez 22-11-63, ça porte la date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, évidemment. Après, vous serez convaincu. C'est un roman où il y a des tas d'éléments qu'on trouve chez King au fil des décennies, et en même temps, c'est un roman sur l'histoire de l'Amérique, c'est passionnant, et c'est très, très... très addictif.
Et en tant que maître du noir, hein, puisque le dossier s'intitule ainsi, un dossier coordonné par Gwenaëlle de Noyer, vraiment de Noyer, un dossier riche hein, que tu as évoqué, où l'on voit sous plusieurs angles cet auteur prolifique, hein, quand même un roman à peu près publié par an depuis 1974, on est à une cinquantaine de romans vendus à 350 millions d'exemplaires dans des centaines de langues à travers le monde.
Il est traduit absolument partout. Il y a eu des dizaines d'adaptations plus ou moins heureuses. Il y a eu tout ce qu'on veut.
Auteur, tu l'as dit. Auteur qui met les femmes à l'honneur dans ses romans. Et puis, donc, comme c'est la conclusion de l'article de Jérôme Leroy, un très grand écrivain amoureux des femmes et des livres. Alors, moi, je suis allé voir, je ne l'avais pas lu, je suis allé voir Billy Summers. Alors, bon, Stephen King, quand même, il faut prendre le temps. Hein. Billy Summers, c'est 500 pages. On est très vite happé par ce roman. Tu citais Stephen King, connaisseur de la littérature américaine, mais il s'intéresse aussi à la littérature française parce que, bon, chapitre 1, page 11, première page hein, de Billy Summers, à qui fait-il référence ? Eh bien, à Émile Zola. Tout azimut. Et puis on se rend compte que, en fin de compte, ce Billy Summers, le roman, il y a trois romans en fin de compte. Hein. Il y a le roman de ce tueur qui effectue une dernière mission, mais qui écrit lui-même un livre, son histoire. Et puis, une fois le contrat rempli, s'engage une deuxième histoire. Et donc c'est vraiment une puissance narrative impressionnante hein, de Stephen King. Tu citais le roman 22-11-63, mais moi je conseille vraiment hein, à celles et ceux qui aiment le roman noir de lire Billy Summers, qui est sorti il y a 2 ans, je pense, en France.
Oui, je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, Billy Summers convaincra les auteurs les amateurs de romans noirs, à mon avis, absolument. Et puis après, pour qui ne l'a pas fait ou qui pense que ça va, après, quand on se plonge dedans, c'est quand même un auteur qu'on aime à retrouver. Et c'est aussi intéressant parce que, y compris, sont intéressants les livres qu'il a écrits sous le pseudonyme de Richard Bachman ou bien avant.
En plus,
Il est très attentif de toute façon à la société américaine, ses dérives. Il annonçait déjà comment les Il y avait dans Marche ou crève, par exemple, oui. qui est un livre qui est un peu un écho moderne. Hein, on achève bien les chevaux d'Horace McCoy. Et justement, dans nos colonnes, Gwenaëlle Bulteau explique très bien le décryptage et la critique sociale qu'il peut y avoir dans un livre comme ça. Et dans un autre roman, Dead Zone, par exemple, de Stephen King, comment il y a déjà le prototype de ce que va devenir en puissance un Donald Trump, son côté de clown terrifiant, et les clowns sont importants chez King, enfin l'image qu'il renvoie, et l'attaque du Capitole, etc. Voilà, c'est un romancier aussi qui décrit comment le fascisme est en embuscade, et ça c'est important.
Control you, 100% natural. You were born for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. A big bear on white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Vous écoutez Radio PFM, Variation en Noir dans Variation, et
D'avoir mis les Dead Kennedys, très raccord.
Raccord, effectivement, avec ce roman.
Je dansotais sur mon canapé.
Ouais, un raccord avec le roman de 22-11-63 de Stephen King, mais aussi avec la chronique Morceaux choisis de la revue 813, pour ce numéro, assurée par Danu Danchini, auteur. En série noire, donc qui met en avant ce groupe, Dead Kennedys, ce groupe de punk hardcore américain du fin des années 70, début des années 80, avec un titre très provocateur, bien entendu, comme le nom du groupe, California Uber Alice, avec une anecdote. Hein, donc l'auteur évoque sa rencontre avec ce groupe, et il évoque aussi un groupe auquel il a participé quand il était jeune, et qui s'appelait les Dead Krazukis. Alors moi, ça me fait penser, parce que sur l'île, il y avait aussi un groupe à la fin des années 90 qui s'appelait, au début des années 2000, les Dead Sarkozys. Donc Dead Kennedys qui a inspiré ici en France aussi des groupes un petit peu alternatifs, hardcore, etc. Voilà, Hervé. Donc toujours une rubrique intéressante, ce morceau choisi, et donc qui colle vraiment avec la thématique.
On en a j'ai appris hier qu'on en avait des belles à venir. Voilà.
Ah d'accord, bon, très bien. Okay.
Par ailleurs, je souligne quand même que c'est important d'aller voir ce que fait 813, je ne dis pas ça parce que je connais bien, mais parce que on a appris récemment que Alibi, alors c'est un autre genre, c'était une revue vendue en librairie, vendue en relais H, vendue, etc., mais que Alibi s'arrêtait et que c'était terminé cette fois. Il y avait eu plusieurs tentatives, c'était un magazine du polar, de la justice aussi, et voilà, après l'arrêt de Sang-Froid il y a quelques temps, l'arrêt d'Alibi, ça veut dire qu'il n'y a plus de revue dédiée au genre qui nous intéresse parmi d'autres, et donc voilà.
Alors, il y a aussi dans la revue 813, numéro 146, un article intitulé « Les amis de Georges » avec Christiane Trigori, qui est membre de 813, qui a passé quelques jours en Belgique, à Liège, pour déambuler dans la cité où Simenon a vu le jour il y a 120 ans. Alors, à l'occasion de ce 120e anniversaire de la naissance, plusieurs petites choses. Tout d'abord, les éditions La Table Ronde publient deux livres. Un premier livre qui est consacré à Simenon et Maigret passe à table, hein, par Courtine. Donc, c'est une série de recettes, des plats que Madame Maigret prépare bien souvent pour son mari lorsqu'il rentre le soir. Il ne mange pas que des sandwichs accompagnés d'une bière. Et,
j'aime bien la blanquette de veau et d'autres choses.
Ah oui, donc c'est vraiment de la cuisine qui tient encore.
Et puis bon, encore active, oui.
Voilà. Et on voulait s'arrêter sur un deuxième livre, alors petit par la taille, à 48 pages, qui s'appelle Radio Simenon, qui est un livre de José Louis Boquet, qui explique José Louis Boquet. En 2003, à l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Simenon, l'association 813, nous y revoilà, posa la question suivante à ses adhérents: comment avez-vous rencontré Simenon et quelles sont vos premières lectures? Et voilà. Et le texte que publie la Table Ronde en est la réponse, mais rédigé trop tard, il ne fut jamais proposé à la revue 813. Voilà. Et donc, José-Louis Boquet, et c'est bien que ce texte soit publié, hein, nous propose sa rencontre, oui, avec Simenon autour de la production d'une émission radio sur France Culture, qui avait été diffusée à l'été 1988. Et c'est vraiment très, très intéressant, hein, parce que c'est un regard sur Simenon un peu différent. Et puis surtout, je pense que tu connais José-Louis Boquet, Hervé.
Bah écoute, je le connais pas personnellement, je connais de nom, je sais aussi qu'il fait tout, il a effectivement énormément œuvré pour le polar, pour la littérature populaire, on peut signaler aussi que lui qui est un amoureux de Simenon depuis longtemps, il est scénariste avec Jean-Luc Fromental de Simenon l'Ostrogoth.
C'est ça.
Il vient de sortir également.
Et avec John Simenon, avec le.
De John, oui, il y a la complicité, ouais, complète de John Simenon,
qui est le fils.
Un fils de Georges Simenon, et des dessins magnifiques de Lou Stahl, et c'est sorti chez Dargaud, et ça raconte les débuts, enfin la rencontre Georges Simenon et Tilly, et puis comment va naître le fameux commissaire Maigret.
Voilà, son arrivée à Paris.
Pour revenir à Radio Simenon, le petit livre que José-Louis Boquet, ce texte au départ destiné à 813 et qui vient de paraître là, à la Table Ronde, c'est très intéressant parce que ça parle aussi, ça comprend très bien et ça fait écho à il doit faire une émission pour la radio et donc il réécoute des bandes et des bandes et des bandes d'interviews de Simenon. Il retrouve des répliques de Simenon comme celle-là: j'essaye d'employer le langage que la majorité des gens comprendra. J'essaye d'employer des mots qui ont le même sens dans 90 000 cervelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien ce que je cherche, c'est de n'employer que ce que j'appelle des mots matière. Je cherche des mots qui aient du poids. C'est comme le mot pluie. C'est un mot admirable. Voilà. C'est marrant. Il y aurait comme un écho le romancier très populaire Georges Simenon. Il y a l'écho du romancier très populaire Stephen King.
Oui.
C'est des gens qui justement ont choisi ce qui n'est pas forcément pour autant un exercice facile d'écrivain, mais ont choisi une écriture d'une apparente simplicité pour être absolument lu par tout le monde. Tout à fait,
ça les rapproche effectivement.
Voilà.
Il faut aussi signaler, Hervé, l'apparition toujours chez Dargaud, là, c'est un projet d'une adaptation d'un roman dur, il devrait y en avoir d'autres, hein, ce qu'on appelle les romans durs, hein, c'est-à-dire Sans Maigret de Simenon, adaptation du Passager du Polar Lys, avec un scénario de José-Louis Boquet, encore lui, et des dessins de Christian Caillot, et vraiment une belle adaptation. question. Alors, Hervé, je suis allé voir le numéro de 813 du centenaire de Simenon. C'était le numéro 85-86, un numéro double d'octobre 2023, exactement il y a 20 ans. Alors, effectivement, le dossier était consacré à Sébastien Japrisot, mais il y avait de nombreuses pages sur le regard des lecteurs de 813, des adhérents de 813 sur Simenon. Et figure-toi, Hervé, qu'en quatrième de couverture, eh bien, il y a une publicité des éditions Rivage, alors, qui dit « Après le splendide Mystic River, Denis Lehane au sommet de son art avec Shutter Island ». Donc ça, c'était il y a 20 ans, et on peut dire que 20 ans plus tard, Denis Lehane est toujours au sommet de son art avec un roman qui est sorti il y a quelques mois, Le Silence, aux éditions Gallmeister, et qui a obtenu, Hervé, le prix.
Il vient d'obtenir, je crois, le Grand Prix de littérature policière.
C'est ça, et, exactement voilà, ça.
Le prix français étant donné à Colin Niel pour Douane, et c'est amusant puisque 813 et le GPLP ont honoré les deux mêmes maisons pour des livres différents, mais les éditions du Rouergue d'un côté et Gallmeister de l'autre.
Et d'ailleurs,
histoire de boucler la boucle, oui. Je dirais quand même que ce qui est parce que Stephen King sait très bien saluer comment dire Zola, Dashiell Hammett, Raymond Chandler ou Jim Thompson, mais il a dit du silence de Denis Lehane, justement, un livre qui stimule le cerveau, le cœur, qui va vous mettre en rage et vous divertir. Comme quoi, la boucle se boucle très bien.
Tout à fait. Et il ajoute, je n'ai pas pu le poser, hein, Stephen King.
Voilà.
Donc, comme on ne peut pas poser les livres de Stephen King, pareil pour Denis Lehane. Autre point de rencontre entre GPLP et Grand Prix de littérature policière et Trophée 813, la remise des prix, des prix de Grand Prix de littérature policière aura lieu aussi à la Bilipo, Hervé.
Absolument.
Au mois d'octobre.
Tout à fait. Et donc, voilà, on sait bien que je vais faire vite parce que je crois que le temps nous est compté là.
Tout
mais Denis Lehane, on sait comment il sait faire des instantanés de l'Amérique dans son dans son histoire. Il avait, je pense, après la série des polars de qualité, hein, Gone Baby Gone, etc. de Kenzie, avec mettant en scène les flics Kenzie et Gennaro. Mais il y a eu évidemment Mystic River, il y a eu Shutter Island, et puis après il y a eu Un pays à l'aube qui racontait, ça se passait à Boston, c'était 1918, la crise d'alors, les grandes grèves, voilà. Et
donc là, le silence, un grand roman qui se passe en 1974 à Boston.
Là, il est en 1974,
ouais, dans un contexte
à Boston, voilà, quartier populaire irlandais, un contexte
social très particulier.
Et puis
avec le buzzing, hein, une opération qui consiste à essayer de mixer socialement dans les écoles en déplaçant les élèves, et notamment les élèves des quartiers populaires noirs vers les établissements plus huppés, et ce qui provoque vraiment des réactions de rejet, et sur lesquelles s'appuie et construit ce roman Denis Lehane.
Oui, et puis il y a une mère dont la fille disparaît, Marie Pat Fennessy, et c'est un portrait de deux femmes debout qui se bagarrent, qui va découvrir qu'en fait elle est laissée de côté, trahie par tout le monde, voilà, et c'est un livre extrêmement subtil sur comment on utilise leur racisme pour diviser les pauvres, hein, par exemple.
Tout à fait.
Et vraiment, là aussi, Denis Lehane renvoie une image de l'Amérique dans un livre extrêmement maîtrisé. C'est le retour du très grand Denis Lehane, à mon avis.
Voilà, donc Stephen King, Simenon, Denis Lehane, beau programme de lecture, Hervé.
Oui, absolument, vous allez vous régaler. Bah, à bientôt à toutes et tous.
Voilà, c'était Variation en Noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM, réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, donc au revoir, de très bonnes lectures en noir ou pas,
au revoir
toutes et à tous.